Cohabitent haine et passion, de domaines où s'accumulent les désillusions, de domaines où l'on peut vite être attiré par l'abstention. Non, parce qu'au début on est plutôt tenté par le vote de conviction, celui qui commence par un coup de foudre plein de frissons, qui ne fonctionne qu'avec un fort taux de participation, une pincée d'aveuglement et une bonne dose de renonciation. Alors on est souvent déçu et on se tourne vers le vote utile et réfléchi, celui qui te permettra d'avoir une vie moins pire que pourrie, où tu devras choisir entre peste, choléra et pandémie. Car la difficulté ici consiste à trouver un bon parti. Reste alors le plus passionnant, le vote contestataire, où attirant ses répulsions s'enchaînent en rythme d'enfer, qui impose des vols au-dessus de nids de cocu délétère, et qui finit généralement par des divorces devant France Inter. Et puis il y a le vote nul, qui correspond à un mariage blanc, où tout tourne autour d'un papier avec des gribouillages ridicules. Et puis il y a le vote blanc qui correspond à un mariage nul. Il ne sert vraiment à rien si ce n'est à faire perdre du temps. En tout cas, partout, tout le temps, il y a la pression du vote. Car l'amour est une conquête, des gens se sont battus pour avoir le droit de dot. Et mieux vaut choisir un requin plutôt que d'aller à la pêche à la lotte. Si tout le monde restait chez soi, quid des marchands de bagues en toc? Avez-vous remarqué les similitudes entre un meeting et les forums de mythique? Que devant sa compagne, comme en campagne, un élu balance des avances pathétiques. Qu'en être cupide, il a alors des pourcentages et se vend Cupidon comme personnage, afin de faire bander l'arc du triomphe et de maîtriser les flèches des sondages. On nous bassine avec des lancinantes moralités propres à inciter les gens à se faire à l'idée qu'il y aurait une seule façon de se faire à l'idée ou de participer à la vie de la cité. Comme si par fatalité on devait faire taire toute velléité de vitalité, à quand des rapports sans pure qualité. Et ouais, les rêves sont ma réalité, alors je rêve que les isoloirs aillent rejoindre des poubelles de l'histoire, et que dans des oubliettes, on y jette les deux modèles type Roméo et Juliette. Mais avec stupeur, je vois que rien n'a changé quand je me réveille en sueur. Et avec lucidité, je me rends compte que je viens de gagner l'élection des députés, élus pour la vie, après avoir déclaré ma flamme à la liberté. Je me représente moi-même, pas besoin d'un spécialiste ou d'une moitié. Et en cas de référendum, la seule chance que j'aille voter oui, c'est quand on me demandera si j'aimerais avoir les pleins pouvoirs sur ma vie. Pas envie de choisir un élu pour son cœur ou pour la nation. Pas envie de dépendance, d'appartenance à une seule personne, une institution. Pas envie de m'étaler des heures pour vous faire part de mes convictions. J'ai toujours eu du mal à conclure, notamment les déclarations.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Vous venez, vous écoutez aussi Jeudi Noir, donc une émission, et vous venez d'entendre Faux Départ, c'est un groupe de Grenoble, donc un groupe de rap, si on peut dire ça comme ça, et le titre c'était « Les rêves ne sont pas ma réalité ». Ce soir, avec Jean-Mathias, José en régie et moi-même, Michel, nous allons vous parler d'un auteur dont nous vous avons déjà parlé à deux reprises, mais on l'aime bien et donc on continue. C'est David Graeber, l'anthropologue anarchiste américain, pour un ouvrage, un recueil d'articles qui a été publié extrêmement récemment et qui s'intitule La démocratie aux marges. C'est dans les éditions le bord de l'eau. Voilà, donc c'est des articles qui avaient été publiés dans la revue du MOS. Et semble-t-il, et donc en 2004, 2010, voilà, donc vous pouvez les retrouver aussi, j'imagine. Et donc là, ils ont été compilés. Et alors moi, je les avais lus ailleurs dans une édition anglaise. Je savais pas du tout qu'ils étaient publiés en français, donc j'en suis ravi. C'est plus facile à lire et et donc il est plus facile à trouver aussi. Voilà, ce soir, on va vous parler de ce que raconte Graeber sur la démocratie d'un point de vue anthropologique. Et je trouve que c'est et anarchiste de surcroît. Je trouve que c'est toujours une lecture extrêmement stimulante. Qui oblige à réfléchir et à se poser pas mal de questions. Voilà, alors c'est Jean-Mathias qui va assurer le fil rouge.
Et alors puis, d'abord peut-être commencer par donner le titre d'origine de l'article en question, parce qu'en fait donc ce qui est publié là c'est récent là, effectivement ça a quelques semaines ou quelques mois, mais c'est 2014. Donc les éditions du bord de l'eau, c'est les éditions d'un mouvement de chercheurs qui s'appelle le MOS, qui est le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales. C'est un mouvement qui date déjà de quelques années, hein, quand même quelques décennies, autour d'Alain Caillé et puis de quelques autres. Il y a une revue, c'est beaucoup de sociologues, d'anthropologues, voilà, et qui essaient de prendre une vocation universitaire au départ. Et puis là, ils ont monté cette petite maison d'édition Le Bord de l'eau là pour publier soit des articles qui sont passés dans leur revue, soit des textes à eux. Et là, donc ce petit livre de Graeber là, donc qui a pour titre, si vous l'achetez maintenant aux éditions du Bord de l'eau, La démocratie aux marges, c'est en fait une reprise d'un article qui s'appelait au départ Alter démocratie, alter économie, chantier de l'espérance, rien que ça. Et qui a été publié dans le numéro 26 de la revue du MOS en 2005. Voilà, donc c'est cet article-là qui est repris et développé. Moi, je dois dire tout de suite que ce petit bouquin-là, alors je le conseille vraiment à tout le monde, là, la démocratie aux marges, parce qu'il est assez impressionnant. Je dis pas que je suis d'accord avec tout et qu'il y a pas des problèmes posés par ça, mais il est assez impressionnant par la quantité de par les perspectives en fait qu'il brasse. C'est-à-dire que c'est un livre sur la démocratie, mais ça va loin, comme on dit parfois. C'est-à-dire que c'est un livre polémique qui vise voilà un certain nombre d'auteurs. C'est au départ, il y a un certain nombre de points qui sont pensés contre les théories de Samuel Huntington. Je sais pas si vous vous rappelez de cet écrivain conservateur américain qui avait théorisé le choc des civilisations, qui a été beaucoup commenté, hein, avec cette idée que les civilisations étaient un petit peu étanches les unes aux autres et qu'on allait vers une confrontation majeure, en gros, entre la civilisation, ce qu'il appelle la civilisation occidentale, caractérisée par un certain nombre de caractéristiques, et puis notamment les civilisations liées à l'islam, enfin la civilisation musulmane. Donc il y a une polémique contre Huntington, il y a tout un tas de recensions d'articles et de recherches extrêmement récentes et pas trop connues, me semble-t-il, moi, en langue française, sur l'approche anthropologique de la démocratie. Donc il y a des choses voilà sur certaines études menées en Afrique, sur la Chine également. Il y a aussi une recension sur les premières études d'histoire globale, c'est-à-dire sur toutes les critiques historiques récentes des approches eurocentristes, finalement, des régimes politiques ou de la culture en général. Et donc c'est assez impressionnant de ce point de vue-là, par la quantité d'informations brassées. Et puis c'est relativement rare, faut quand même le dire, sans prétention, qu'on apprenne vraiment des choses factuelles dans des livres de ce genre. Et ben là c'est le cas. On apprend des tas de choses. Donc vraiment je conseille ça, hein, La démocratie aux marges de David Graeber. Alors pour en parler, il faut peut-être commencer moi je propose de suivre un peu bêtement le plan de l'article, qui est très clair de ce point de vue-là. Je vais vous lire ça, ce plan qui est énoncé. Alors c'est peut-être un petit peu long, mais ça vous donne un peu une idée des thèmes brassés. Donc il explique ça, c'est page 22-23 du livre. Donc il dit, la meilleure façon de procéder, c'est d'énoncer d'emblée en raccourci les thèmes dont je vais vous parler. Premier thème, presque tous ceux qui écrivent sur le sujet, Ça c'est Graeber donc, qui parle hein, dans son introduction. Presque tous ceux qui écrivent sur le sujet affirment que la démocratie est un concept occidental, entre guillemets, dont l'histoire débute à Athènes, et considèrent que ce qui renaît au XVIIIe et XIXe siècle en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord n'en serait pour l'essentiel que le prolongement. Ils pensent évidemment aux révolutions françaises et américaines. La démocratie est ainsi conçue comme ayant pour espace naturel l'Europe occidentale et ses colonies francophones ou anglophones. Aucune de ces affirmations n'est justifiée. Ce qu'on appelle la civilisation occidentale est un concept particulièrement confus, et s'il réfère vaguement à quelque chose, c'est seulement à une tradition intellectuelle. Or celle-ci est tout aussi hostile que la tradition indienne, chinoise ou méso-américaine à quoi que ce soit qu'on puisse considérer comme relevant de la démocratie. Premier point. Donc ça c'est la ligne directrice de son texte. Deuxième point. Toujours Graeber, les pratiques démocratiques, c'est-à-dire les procédures de prise de décision égalitaire, existent à peu près partout dans le monde. Elles ne sont spécifiques à aucune civilisation, culture ou tradition déterminée. Elles tendent à apparaître en tout lieu où la vie sociale se déroule en dehors des structures de domination systématique. Troisième point, l'idéal démocratique, ce qu'on appelle l'idéal démocratique, tend à émerger lorsque, dans certaines circonstances historiques, les intellectuels et les hommes politiques, qui d'une façon ou d'une autre se fraient habituellement leur chemin en naviguant entre les institutions d'État et les mouvements populaires. Donc quand ces élites interrogent leur propre tradition pour en extraire des exemples de pratiques démocratiques présentes ou passées, afin de démontrer qu'elles contiennent des germes précieux de démocratie. Je passe, donc l'idéal démocratique c'est toujours quelque chose qui est reconstruit hein, lorsque cet idéal va avoir une utilité historique précise pour les élites en place. Quatrième point, le fait que cet idéal se soit toujours fondé, au moins partiellement, sur des traditions inventées, ne signifie pas pour autant qu'il ne serait pas authentique ou légitime, ou du moins moins authentique et légitime que tout autre idéal. Il présente néanmoins une contradiction. Cet idéal a toujours reposé, l'idéal démocratique, a toujours reposé sur un rêve impossible, le rêve d'un mariage entre les procédures et pratiques démocratiques d'une part, et les mécanismes coercitifs de l'État d'autre part. C'est évidemment sur ce point-là que nous, on est sensible aux propos de Graeber aussi, c'est-à-dire qu'il oppose de manière presque logique, on va dire, hein, l'idéal démocratique aux pratiques d'État. Et donc pour lui, il n'y a pas de mariage possible, en réalité, quels que soient les discours qu'ils ont tenus là-dessus, entre la démocratie et l'État. Dernier point donc, et son point de conclusion, alors c'est évidemment celui qui est le plus actuel, le plus risqué aussi, et puis sans doute le plus discutable. Donc dernier point, développé dans l'article, l'expérience qui est aujourd'hui la nôtre n'est pas celle d'une crise de la démocratie, dit Graeber, mais plutôt celle d'une crise de l'État. Et si on a pu assister ces dernières années au sein des mouvements altermondialistes à un regain d'intérêt pour les pratiques et procédures démocratiques, ça s'est opéré presque entièrement hors des cadres étatiques. L'avenir de la démocratie se joue précisément dans ces espaces. Donc voici, ça c'est un petit peu les grandes lignes donc de son propos. Donc première chose, il s'attaque finalement à une espèce de monstre sacré, si vous voulez, de la réflexion politique, de la philosophie politique, des théories politiques, de la pensée politique, à savoir cette idée finalement que la démocratie a une histoire et qu'elle a une histoire qui est ancrée dans la culture occidentale, plus particulièrement dans ce que certains ont appelé le miracle grec, c'est-à-dire la démocratie athénienne, et que finalement, tout l'ensemble des pratiques et des idées qui sont associées à la notion de démocratie est relative hein, à cette culture, à cette civilisation occidentale, et que donc ça n'a pas vraiment de sens d'aller chercher dans d'autres cultures ou dans d'autres endroits du monde ou à d'autres époques, ça n'a pas vraiment de sens d'aller chercher des pratiques démocratiques ou d'aller poser des revendications démocratiques dans d'autres zones du globe ou dans d'autres sociétés que les sociétés occidentales. Ce qui est, et c'est ce que dit Huntington, donc cette espèce de théoricien néoconservateur américain, est vraiment l'exemple de ça. C'est aussi très pratique parce que ça permet de laisser effectivement les régimes autoritaires, dictatoriaux, tyranniques partout dans le globe, sans avoir trop à se mouiller. Hein. Et puis, ça permet aussi de maintenir en interne, dans la zone dite occidentale, ça permet de maintenir aussi un petit peu les revendications en respect, en leur disant, écoutez, vous êtes bien gentils, mais regardez un petit peu autour ce qui se passe. Hein. Déjà, contentez-vous bien de ce qu'il y a. La démocratie, c'est précieux, c'est historique. Dans les autres zones du globe, ils n'en ont rien à faire. Hein. Ils n'en veulent pas. Donc vous-même, hein, essayez de rester peut-être un petit peu discret. Alors, il y a, dès le départ, il cite Huntington, donc, qui est voilà, l'auteur de ce
sachant qu'il faut préciser que tu l'as déjà fait plus ou moins en disant que Graeber séparait démocratie et État, que pour lui c'était deux termes inconciliables. Que finalement Graeber, quand il parle de démocratie, il est jamais très très loin de l'anarchisme.
Bien entendu. On peut le dire d'entrée. Hein, c'est ce que lui il considère comme la démocratie, c'est toutes les processus de décision égalitaire. Donc c'est pas le vote, bien entendu. Hein. Ce qui est central pour lui dans les procédures démocratiques, c'est plutôt le consensus. C'est-à-dire toutes les procédures de décision
la production.
La production de consensus. Parce que l'important, c'est que personne ne se sente réellement lésé d'une manière ou d'une autre par une décision collective. Et donc, évidemment, ça a une dimension anarchiste immédiate, ça, parce que d'après lui, ça n'est possible que dans des cadres où finalement, il n'y a pas de système de coercition. Donc il n'existe pas d'État, hein, ou d'autorité centralisée, ou de contrainte institutionnelle, en quelque sorte, suffisante pour imposer la dictature de la majorité. Donc ça veut dire que le vote n'est pas caractéristique de la démocratie. L'égalité dans la prise de décision et la décision au consensus, oui. Voilà, ça c'est effectivement sa conception-là, et c'est en ça effectivement qu'il revendique une conception anarchiste de la démocratie. Alors, on reviendra peut-être après là-dessus, parce que c'est peut-être...
Je pensais qu'il fallait préciser, parce que Grébert le dit lui-même dans d'autres passages, le terme démocratie est tellement utilisé à toutes les sauces, il n'y a pas d'essence cachée derrière, il n'y a pas d'essence cachée de la démocratie, mais ça peut signifier aussi, on vous envahit au nom de la démocratie, etc., comme en Irak, ou autre, donc autant préciser tout de suite que, démocratie, c'est quasiment synonyme d'anarchie, ou en tout cas de système libéral, d'organisation sociale libertaire, sociale politique libertaire.
Et même d'organisation libertaire, mais même assez radicale, parce que ça va même au-delà de la simple démocratie directe, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire en sorte qu'il y ait un homme, une voix, puisque c'est la pratique du vote elle-même est déjà une manière d'institutionnaliser une contrainte de la majorité.
Donc on sort déjà de la démocratie. L'exemple préféré de Grébert, c'est les soldats grecs paumés en Inde après l'invasion d'Alexandre, qui ont perdu leur commandement et qui, pour décider, vont voter. Et ce que dit Grébert, c'est que dans ce système-là, finalement, ce qui compte, c'est les armes.
Exactement.
C'est-à-dire que quand il y en a, si on est 60%, 40%, le rapport de force est très très clair. Donc les 40% qui n'étaient pas d'accord vont bien devoir soumettre aux 60%, parce que s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent se faire massacrer. Et de ce point de vue-là, le vote chez Gréber est toujours vu comme finalement l'imposition d'un rapport de force. Très précis. Ça suppose des armes.
Le votant est armé.
Voilà. Le bon votant est
historiquement
armé.
Le votant, il est armé. Et il faut bien qu'il soit. Et c'est pour ça qu'on va respecter sa voix, c'est-à-dire qu'on va y obéir en fait. On respecte pas la majorité, on y obéit parce qu'effectivement elle a le rapport de force qui est favorable. Alors effectivement, t'as raison de préciser tout ça, parce que pour pas qu'on soit effectivement dans l'espèce de mélasse un peu
démocratiste,
dans laquelle on est. Alors en même temps, il faut bien dire les choses. Son propos, il se situe d'abord sur un niveau un peu plus abstrait, qui est celui donc de cette espèce de conception selon laquelle la démocratie, ça serait alors pêle-mêle toute une série de valeurs. Alors, je vous cite rapidement la formule qu'il donne de Huntington, qui est une espèce de formule très très fourre-tout quand on y pense. Il le dit encore, Huntington, alors c'est une cible facile, et en même temps c'est une cible qui est significative d'après lui, parce qu'elle concentre toute une série de trucs qu'on trouve finalement partout, de la gauche à la droite, des médias dominants ou même un peu moins. Alors la citation d'Huntington, c'est la suivante. Donc le livre d'Huntington, c'est 93, c'était concomitant c'était entre les deux guerres du Golfe. Avant la première guerre du Golfe.
Juste après
la chute de l'Union soviétique, évidemment. Alors, citation de Huntington. « D'une façon assez superficielle, une part importante de la civilisation occidentale a de fait imprégné le reste du monde. Mais à un niveau bien plus fondamental, les notions occidentales diffèrent profondément de celles qui dominent dans les autres civilisations. Individualisme, libéralisme, constitutionnalisme, droit de l'homme, égalité, liberté, règne de la loi, démocratie, marché libre, séparation de l'Église et de l'État, toutes ces idées rencontrent bien peu d'écho dans les cultures islamiques, confucéennes, japonaises, hindoues, bouddhistes ou orthodoxes. Les efforts déployés par l'Occident pour les diffuser ont au contraire tendance à provoquer dans ces sociétés des réactions contre l'impérialisme des droits de l'homme, entre guillemets, et une réaffirmation de leurs valeurs propres, comme on peut l'observer avec le soutien apporté par les jeunes générations des cultures non occidentales au fondamentalisme religieux. L'idée même qu'il existerait une civilisation universelle est une idée propre à l'Occident, totalement étrangère au particularisme qui caractérise la plupart des sociétés orientales et à leur insistance sur la différence entre les peuples. » Alors, de fait, c'est vrai que cette citation, elle est donc de Huntington, hein, toujours, elle est assez troublante parce qu'on a l'impression de l'entendre à peu près 10 fois par jour, dès qu'on aborde des sujets de géopolitique ou la montée de l'islamisme dans le monde ou les rapports, y compris, par exemple, avec Poutine aujourd'hui ou avec. Il y a cette idée-là qu'effectivement, il y aurait une espèce d'îlot historique un petit peu miraculeux où on serait individualiste, libéraux, on respecterait les constitutions, les droits de l'homme, l'égalité, la liberté, le règne de la loi, la démocratie, parmi tout ça, le marché libre, bien évidemment, la sécularisation des institutions, Et donc ça, c'est une espèce d'îlot, alors, à défendre, finalement, à défendre contre ces espèces contre ces barbares, faut bien le dire, islamiques, confucéens, japonais, hindous, bouddhistes ou orthodoxes.
À défendre, mais en reconnaissant la particularité ou le particularisme.
Exactement. À défendre en reconnaissant bien que c'est particulier.
De ce point de vue-là, Huntington, il n'est pas très très loin de Burke. Et de tous ces penseurs politiques
conservateurs, bien sûr.
Qui à l'époque, par contre, comme un type comme Burke a écrit contre la Révolution française,
bien sûr,
et se sentait obligé de critiquer l'universalisme des Lumières au nom du particularisme anglais, précisément. Mais ici, au bout du compte, c'est le même bousin, c'est-à-dire qu'on commence par nier l'universel, on reconnaît la particularité de chaque culture, et puis on affirme la prééminence de la nôtre.
Oui, alors on affirme la prééminence de la nôtre, ça veut dire éventuellement ce qui permet de justifier la guerre contre les autres, et ce qui permet, encore une fois, faut pas le perdre de vue, de tenir aussi un petit peu au calme ceux qui en voudraient en faire trop, y compris chez nous, parce que c'est toujours un discours à double détente cette affaire-là. Hein. Donc on s'adresse à la fois, parce que ce discours-là, il s'adresse ni aux hindous, ni aux confucéens, ni aux machins. Hein. Eux, on leur envoie on leur envoie directement les GIs. Hein. On va pas commencer à discuter sur l'histoire des civilisations. On leur envoie les GIs. C'est un discours qui s'adresse toujours finalement, qui a un usage interne. Hein. Toujours ce discours néoconservateur. Faut pas le perdre de vue. Et alors, Graeber a une manière assez simple de balayer tout ça en expliquant finalement que toutes ces valeurs dont il est question là, si on regarde précisément la tradition de l'histoire intellectuelle de l'Occident, alors l'Occident, il faut voir l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, si on regarde les intellectuels, les élites entre guillemets politiques, philosophiques ou culturelles dans l'histoire, la plupart des grandes figures sont contre ces valeurs-là en réalité. C'est-à-dire que si on regarde la pensée politique occidentale, s'il y a quelque chose qui existe comme ça, elle n'est pas particulièrement pro-individualiste, elle n'est pas particulièrement favorable aux droits de l'homme, elle n'est pas favorable non plus à l'égalité, la liberté, il faut voir, le règne de la loi, tout dépend, la démocratie, c'est carrément le contraire, le marché libre, il faut voir, là c'est pareil, séparation de l'Église et de l'État, ça se fait quand même pas tout seul. C'est-à-dire que ce que montre Graeber, c'est que là, il y a une espèce de mythologie complète, et qui est effectivement la chose du monde la plus partagée parmi les éditorialistes, penseurs politiques, à savoir cette idée que l'Occident serait effectivement majoritairement et consensuellement et vraiment sans qu'il y ait finalement de débat particulier, d'accord sur les idéaux démocratiques, d'égalité, etc.
Et par exemple, un des trucs que fait remarquer Graeber, c'est que les fondateurs des régimes politiques américains et français sont consciemment républicains, c'est-à-dire antidémocrates et anti-aristocrates.
Tout à fait.
Et leur but, c'est très très clairement d'éliminer toute possibilité de démocratie. À l'époque, ils valorisent nettement plus le modèle romain que le modèle grec. Pour eux, le bon modèle à suivre, c'est Rome, c'est certainement pas Athènes. Parce qu'Athènes, c'est le désordre, c'est la démocratie directe, c'est quelque chose qu'on peut pas suivre. Donc il faut plutôt essayer d'éliminer à la fois le peuple et les aristos pour préserver un régime soi-disant équilibré, avec par exemple un pouvoir exécutif relativement fort, une chambre haute pour les nobles, une chambre basse pour le peuple, histoire qu'il y ait un petit équilibre et que toutes ces forces soient contenues. C'est républicain, c'est pas démocratique,
ouais.
C'est complètement différent.
Mais je trouve que c'est rare d'avoir une distinction aussi claire justement entre les deux.
Entre république et démocrate.
Ouais. Oui, moi je trouve ça assez frappant, c'est-à-dire qu'il a un sens de la clarté parfois dans les formules, et en expliquant qu'effectivement les régimes dits occidentaux, ils sont républicains, et la république elle se construit effectivement contre l'aristocratie, oui, et contre la démocratie
aussi.
Voilà. Il s'agit d'essayer de trouver une espèce de synthèse parmi là-dedans, et il reprend d'ailleurs, et ça on le trouve, pour le coup ça va vraiment dans le sens de ce qu'il dit, on trouve ça dès Aristote, c'est-à-dire qu'Aristote lui-même pense le bon régime comme justement un subtil équilibre entre de la monarchie, de la démocratie et de l'aristocratie. Il faut que tout ça puisse s'articuler dans la bonne constitution. Et tous les constituants américains ou français au moment des révolutions aux États-Unis ou en France, ils ont ça en tête. Et ils sont pas démocrates. Et quand Huntington met ça comme une espèce d'évidence qui serait au cœur de la culture occidentale depuis que les Grecs ont inventé ça par un je ne sais quel miracle, et ça n'a aucun contenu historique.
Voilà, donc c'est sur ce mythe de l'Occident démocrate qu'on va faire une pause musicale, et on vous retrouve juste après.
Il faut pas s'attendre à des miracles. Faut pas s'attendre à des merveilles de la part du plus gros bouffon. Pas des miracles, pas des miracles, pas des miracles, pas des miracles. Il faut pas. Quelque chose à dire contre la société, je sais pas quoi. C'est juste que je suis super méga deg, y compris même contre moi.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa deuxième partie. Et ce soir, donc, avec Jean-Mathias, José et moi-même, nous vous parlons de La démocratie aux marges. C'est le titre d'un ouvrage de David Graeber, qui a été édité donc au bord de l'eau, dans les éditions Le Bord de l'eau, donc des choses qui sont en rapport avec le MOS, une sociologie, une anthropologie, enfin anti-utilitariste. Voilà, et donc, on vous parlait de la façon dont Graeber s'attaquait à Huntington, un écrivain conservateur américain, qui prétend définir une tradition occidentale. Et alors, je ne sais pas si on va en parler après, mais Graeber démonte pièce par pièce cette idée. Il va jusqu'à même démonter l'idée même de civilisation occidentale, qui pour lui n'a en réalité aucun sens. Et voilà, donc on va poursuivre sur Graeber et la démocratie aux marges. Jean-Mathias ?
Oui, le point peut-être à compléter par rapport à ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire qu'il commence par démolir cette idée qu'il y aurait une espèce de culture occidentale, berceau de la démocratie, en montrant que si on peut parler d'une culture occidentale, c'est-à-dire d'une pensée politique voilà, avec des grands auteurs, des grands dirigeants, avec tout ce qui est mis en avant du point de vue de l'histoire culturelle occidentale, et ben c'est une histoire qui est assez largement antidémocratique pour le coup. Et que donc, contrairement à ce qu'on affirme à longueur de temps à la suite de Huntington ou d'autres, hein, comme une espèce de vulgate un peu comme ça, il y a rien d'évident aux pratiques démocratiques dans l'histoire occidentale. Alors le point important, c'est que ça ne conduit pas évidemment à conclure que la démocratie n'existe pas en Occident. Simplement, lui, ce qui l'intéresse, c'est les pratiques démocratiques. Et ils disent que les pratiques démocratiques, ça, effectivement, il y en a en Occident, et pas qu'en Grèce, hein, puisque les pratiques grecques sont déjà démocratiques à mettre entre guillemets, puisque les esclaves, ni les femmes, ni les esclaves ne participent. Donc il dit qu'il y a déjà en Occident, ailleurs, dans ce qu'on appelle en Occident, il y a eu des pratiques effectivement démocratiques, mais il y en a partout. Il y en a partout, c'est-à-dire qu'elles n'ont absolument rien de spécifiquement occidental, et que, c'est ce qu'on disait, ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a, d'après lui, des pratiques, enfin, l'anthropologue, ou si on s'intéresse évidemment aux pratiques concrètes, pas aux livres. Hein, pas au livre, pas aux théories, ou pas à la parole autorisée, ou pas à l'histoire des théoriciens officiels, hein, de telle ou telle civilisation. Si on s'intéresse aux pratiques, alors oui, on va trouver des pratiques démocratiques dès qu'il y a justement des procédures de décision collective dans lesquelles les individus sont respectés et dans lesquelles on ne cherche pas à écraser la volonté d'une minorité par celle d'une majorité, ou l'inverse, évidemment. Hein. Mais donc il y a pratique démocratique quand justement, il y a recherche d'une décision au consensus, et ça veut dire que ça s'observe dans ce qu'il appelle parfois des zones d'expérimentation culturelle. Donc en fait, ce sont des zones finalement, comme par hasard, hein, où finalement l'autorité d'un État, ou de ce qui pourrait ressembler à un État, est absente ou faible. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des pratiques démocratiques, il faut effectivement qu'il n'y ait pas d'institutions capables de contraindre les individus à appliquer une décision majoritaire ou évidemment minoritaire.
Donc de ce point de vue, les pratiques démocratiques, elles peuvent avoir lieu même au sein d'un État.
Tout à fait.
Mais éventuellement dans une association, dans une réunion de gens, tout ça. Ouais. Mais après, ça pourrait être aussi plus étendu si, comme par exemple à Madagascar, l'État s'est tellement cassé la gueule que les gens sont obligés de s'organiser eux-mêmes. Et que pour différentes raisons, liées à leur histoire, leur culture et autres, ben ils ont mis en place des procédures de décision collective réellement démocratiques. Ou pour donner un exemple que prend Graeber, un individu peut tout bloquer en disant moi ça ne me convient pas. Et à partir de là, tout le processus est relancé. Et alors à Madagascar, c'est assez intéressant parce que finalement, ce genre de processus est mis en place dès qu'il s'agit d'une décision collective, que cette décision concerne 5 personnes ou 500 ou 1000. Et c'est là qu'il va y avoir effectivement une pratique démocratique.
Alors donc l'idée, c'est évidemment toujours... Et en fait, ce qui est assez impressionnant chez Graeber, je trouve, c'est sa capacité à argumenter en même temps à plein de niveaux différents. C'est-à-dire qu'il court à chaque fois plusieurs lièvres. C'est-à-dire qu'il se paye Huntington en montrant qu'historiquement c'est n'importe quoi, première chose. Ensuite, il démonte un peu plus en amont l'idée de tradition occidentale en montrant finalement que toute l'histoire, les recherches historiques contemporaines tendent à repenser finalement l'histoire de l'Occident comme une histoire qui est finalement courte et récente, hein, puisque il faut la replacer dans une histoire plus globale, et que jusqu'au Moyen-Âge et jusqu'à la fin du Moyen-Âge, ce qu'on appelle l'Europe occidentale est au fond un système périphérique, hein, que les grands systèmes mondes, c'est la Chine, l'Inde, et puis ce qu'on appelle le Moyen-Orient, et qu'au fond, alors là,
c'est la grande banlieue du monde.
C'est la grande banlieue du monde, et qu'effectivement, qui fournit des matières premières, de la main-d'œuvre.
Ouais, et qui achète des produits finis.
Tout à fait.
Et tout ça va changer avec la colonie.
Et alors là où il est particulièrement subtil et pervers, faudrait peut-être en parler. J'entendais il n'y a pas si longtemps Finkielkraut en train de grimper au rideau sur les nouveaux manuels d'histoire. Bon, là il y aurait de quoi effectivement lui faire perdre des cheveux. Il explique qu'au fond ce qu'on considère comme spécifiquement occidental dans l'histoire de l'Occident, hein, on ne l'observe finalement que lorsque l'Occident devient capable d'imiter ce qui se passe dans le monde musulman. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Occident imite effectivement ce qu'on observe dans le monde musulman, alors je vais vous retrouver la citation parce que c'est assez drôle. Je sais, historiquement, ça doit se débattre, mais alors, il nous explique ça. Voilà, c'est page 44, on trouve ça, il dit... Donc on est à la fin, voilà, au cœur du Moyen-Âge, il explique « L'islam ressemble sous tellement d'aspects à ce qui sera plus tard appelé la tradition occidentale Il cite « Même effort intellectuel mené pour articuler les écritures judéo-chrétiennes et les catégories propres à la philosophie grecque, même accent mis sur la littérature, dans la littérature sur l'amour courtois, même rationalisme scientifique, même juridisme, même monothéisme puritain et même impulsion missionnaire, même capitalisme mercantile en pleine expansion, même vague périodique de fascination pour le mysticisme oriental, etc. que seuls les préjugés historiques les plus tenaces ont pu aveugler les historiens européens et les empêcher de voir qu'il s'agissait bien là de la tradition occidentale de comprendre que l'islamisation fut et continue d'être une forme d'occidentalisation et que c'est seulement à partir du moment où ils ont de plus en plus ressemblé à l'islam que ceux qui vivaient dans les royaumes barbares du Moyen-Âge européen en sont venus à ressembler à ce que nous appelons aujourd'hui l'Occident. Voilà. Alors, vous voyez, c'est-à-dire que c'est assez vicelard parce que ça consiste à montrer. Alors, bon, après, il y aurait sans doute beaucoup à dire sur la spécificité musulmane de tous ces aspects-là, bien évidemment, mais il s'amuse un petit peu avec ça en montrant finalement que les qualités, mais aussi les défauts qu'on va finalement retrouver dans ce qu'on appelle à tort une espèce de culture occidentale, eh bien, en fait, ils apparaissent tous, hein, les qualités comme les défauts, d'ailleurs, dans la civilisation musulmane, si on peut parler de cela, y compris voilà, dans ces aspects séculiers, rationalistes, scientistes, littéraires.
Mais aussi bigots,
puritains, mystiques, avides de fric, etc. Tout ça, on le trouve déjà, effectivement. Et à partir du moment où l'Occident devient incapable, en sortant un petit peu de sa grossièreté barbare, devient capable d'imiter ça, alors là, effectivement, se trouve sur les rails ce que plus tard on va appeler la tradition occidentale, mais qui est évidemment pas née, absolument pas née en Europe occidentale. Donc, alors ça, j'insiste un peu là-dessus, parce que c'est un des trucs qui m'a le plus intéressé, moi, dans le livre, c'est notamment tous ces passages-là. Alors, je suis pas historien, donc c'est difficile à évaluer, mais il me semble que là, il y a quelque chose de vraiment... très rafraîchissant, hein, dans cette espèce de... Parce qu'on a une critique ici, une mention, en tout cas, tout un tas de recherches qui sont... absolument anti-eurocentrique, comme on dit, c'est-à-dire qui cherche à repenser l'histoire du monde sans placer une espèce de vision mythifiée de l'Europe au cœur du jeu, et donc voilà, ce qui est à mon avis de bonne méthode, et qui en même temps, et c'est ça le point important chez Graeber, qui en même temps ne défend pas un point de vue relativiste. Et ça, c'est vraiment le point fort de toute son analyse. Et alors ça, c'est quelque chose qui commence à bouger, me semble-t-il, parce que Graeber n'est pas le seul sur cette ligne-là. Il y a un article en une du Monde Diplomatique, là, ce mois-ci, que je vous conseille aussi, d'un anthropologue, alors qui lui est plutôt marxiste, qui s'appelle Vivek Scheber, hein, qui est en titre du Monde Diplo, là, et qui montre ça, qui montre aussi que finalement, l'anthropologie, ce qu'on appelle relativiste, c'est-à-dire qui consiste à dire, mais au fond, pas la peine de chercher des valeurs qui seraient universelles ou des choses qui seraient communes à toutes les cultures. Chaque culture a ses valeurs, ses systèmes de pensée, ses croyances, il faut respecter ça, etc. Et surtout pas chercher... Non, c'est pas ce que dit Graeber. Graeber dit pas ça. Il dit, oui, effectivement, c'est idiot de penser que tout ce qu'on appelle, tout ce qui a une valeur positive, finalement, serait né, du point de vue politique, serait né dans la tradition occidentale, parce que ça n'a aucun sens. En fait, on le retrouve partout. Il faut bien voir, effectivement, penser à la fois ce qui se passe dans chacune des cultures ou des civilisations. Oui, ça existe, dit Graeber, mais pour autant... Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'idée universelle ou de pratique universelle. Il y a un universel, c'est les pratiques démocratiques, d'après lui.
C'est ça, les pratiques démocratiques
sont
universelles avant d'être européennes, avant d'être occidentales.
Exactement. Et c'est un point que je trouve très fort dans son approche.
Ça, c'est dans toute son œuvre, il a un petit côté structuraliste. C'est-à-dire il cherche des structures de décision, des structures de valeurs morales. Et il a tendance à voir à quel point, d'une culture à l'autre, si on regarde les pratiques et pas forcément l'idéologie de la culture
exactement,
en question,
exactement.
Finalement ces pratiques peuvent se ressembler de façon étonnante. Et c'est une des raisons pour lesquelles je le trouve super intéressant, parce que parfois l'anthropologie peut aider à tomber dans une espèce de relativisme facile qui n'aide pas du tout à penser ni à agir.
Voilà, du chacun chez soi finalement. Oui. Voilà, pour comprendre une culture, il faut surtout mettre de côté tout ce qu'on aurait comme idée un peu sur ce qui serait la nature humaine ou des invariants et tout ça. Et Graeber dit, oui, ok, on fait ça. Mais regardez, du coup, si on laisse de côté ça, qu'est-ce qu'on va observer? Si on laisse de côté les théories sur la nature humaine, sur la tradition occidentale, démocratie athénienne, etc., ok, laissons ça de côté, mais ce qu'on va voir en pratique, c'est effectivement des pratiques démocratiques. Et ça, on va les retrouver partout. C'est assez efficace, je trouve, de ce point de vue-là. Alors, le Vivek Scheber, dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi un anthropologue, qui lui est américain. Alors lui, dans une tradition un peu plus marxiste, mais lui, il se paye effectivement cette anthropologie relativiste, hein, dont on parle, qui est quand même assez présente dans tout ce qu'on appelle les études postcoloniales, etc. Faut bien nommer les choses aussi.
Alors qu'elle est partagée par beaucoup d'écrivains réactionnaires.
Tout à fait. Alors on trouve ça, alors les études postcoloniales, donc c'est tout un mouvement voilà qui cherche à repenser l'histoire à partir du point de vue des dominés, hein, donc on a cette idée-là, et donc il faudrait laisser tout ce qu'il y a, ce qui est relatif au point de vue des dominants, mais parmi ces points, ce qui est le point de vue dominant, il y aurait notamment voilà des idéaux démocratiques, voilà le respect de l'individu, les droits de l'homme, etc. Tout ça, ce serait une pensée dominante dans les études postcoloniales. Je schématise évidemment, mais il y a cette idée-là et qu'il faut arriver à penser du coup voilà du point de vue des dominés et comprendre, faire une histoire qui serait radicalement différente et une anthropologie radicalement différente du point de vue des dominés, en laissant de côté tout ce qui serait projet d'émancipation sociale, politique, appuyé sur les droits de l'homme, la démocratie, etc. C'est pas ce que dit Graeber du tout. C'est pas ce que dit Graeber. Donc Scheber, voilà, se paye ça, lui, là, dans le diplôme ce mois-ci. Graeber aussi, c'est assez rassurant, je trouve, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on baigne dans cette espèce de mélasse-là, alors qui est malin, parfois bien intentionné. Je veux dire, voilà, penser effectivement une histoire d'après la pensée coloniale, voilà, on peut pas être contre ça, et qui en même temps, voilà, et qui rejoint parfois de manière un peu inquiétante, voilà, des conclusions qui sont celles des auteurs réac et conservateurs depuis toujours, à savoir effectivement. Cherchez pas à étendre la démocratie, cherchez pas à étendre l'égalité ou l'émancipation.
Cherchez pas à trouver du commun.
Cherchez pas à trouver du commun. Ça, c'est une histoire de petits privilégiés occidentaux. Et au passage, donc vous-même, fermez-la en interne, parce que vous êtes.
Et puis au bout du compte, voilà. On n'est jamais mieux que chez soi.
Exactement. Voilà. Ça, c'est la conclusion qui finit par s'imposer. Donc cette partie-là, vraiment, je recommande. Hein, voilà, c'est le deuxième chapitre où il brasse un petit peu toutes ces thématiques-là. Et c'est vraiment vraiment passionnant. Alors il y a peut-être on va peut-être faire une petite pause musicale encore avant d'aborder les derniers thèmes, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là. Donc on va faire une petite pause et puis on reprend après ça.
ZZZ, telle est ma notation chez Standard & Poor's. Complètement dévaluée, définitivement en dehors de la course. Que faire si ce n'est résoudre le problème à la source? Pendre le dernier banquier avec le dernier cordon de la bourse. Car c'est vrai que je suis aigri, je vois pas tous les beaux côtés de la vie. Ma vue s'attarde trop sur les bas côtés, et je comprends pas le bonheur pour six côtés. J'ai de la merde plein les yeux, et parle déjà comme un vieux. Envieux de rien, toujours suspicieux. La joie d'être sans cesse surveillé échappe à mon esprit vicieux. Mon vice, c'est d'être rempli de mauvaise foi. Et à chaque nouvelle loi, de crier aux abois. De laisser penser que jusqu'à la lie, le calice on boit. Alors qu'on vit si bien sous le règne du calife hongrois. On accuse de cynisme à personne. Faut dire que mon manque d'enthousiasme, je le bichonne. Ne pas soutenir la marche du monde me semble évident, tout comme une envie de suicide pour un salarié de France Télécom. Je n'ai pas la positive attitude. Et fais preuve de beaucoup d'ingratitude envers l'ensemble des dirigeants dans leur multitude. Alors que je devrais me réjouir de ne pas être né dans le sud. Je suis à la rue, ringard, old look. Ne communique ni sur Twitter ni sur Facebook. N'achète rien sur eBay, préfère le souk. Et les rencontre dans la vraie vie comme un vrai plouc. Constamment, à côté de la plaque, je ne possède pas le moindre objet smart. Normal, je m'habille encore en Podiac et habite dans une grotte au fin fond du Larzac. J'ai fait un faux départ, pris une fausse route. Ne perçois pas la beauté des autoroutes. Le développement durable, j'en ai rien à foutre. Dans son œil, je vois la paille et la poutre. Naïf, comme un bon apôtre, j'espère encore tous les envoyer faire paître. Les pontes, les padrés, les prêtres et les pitres. Tous ceux qui me débectent et tous ceux qui me dépitent. Un peu trop loin, je pousse le bouchon. Je suis râleur, rébarbatif et ronchon. Mélancolique comme en crachin, une chanson d'Alain Souchon. Je déteste même les badges, I love machin. Irresponsable, insensé, immature. Je ne saisis pas l'humanité de la préfecture. L'intérêt de vendre des armes à des dictatures. La même où nos ministres ont leur villégiature. Voilà, j'ai tort et en rien ma terre. Le moindre charter ou un simple réacteur itère. Et même si je sature, je réitère. Car la satire, voilà tout ce qui m'attire. Et je manque cruellement de propositions constructives. Faire chier le monde, tel est mon leitmotiv. Car si le néant est notre perspective, au moins que cela ne se fasse pas dans l'affirmative. Face à l'acceptation et l'hypocrisie, face à l'amnésie de ceux qui s'extasient, je continuerai avec fracas et frénésie à balancer ineptie et hérésie. La raison de l'économie n'en merci. Ma voix ne se situe pas par ici et tant pis si. Je préférerais toujours la dérision de la poésie. La raison de l'économie n'en merci. Ma voix ne se situe pas par ici et tant pis si. Je préférerais toujours la dérision de la poésie.
Bon.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans doute ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et sans doute dernière partie. Vous venez d'entendre donc un morceau d'un groupe qu'on avait déjà diffusé, les derniers sur le rap, et qui s'intitulait Dérision de la poésie. Voilà pour la musique. Et ce soir, nous vous parlons donc d'un ouvrage de David Graeber, l'anthropologue anarchiste américain, qui a déjà publié un bouquin qui a fait grand bruit sur la dette. Et ce soir, nous vous parlons de la démocratie aux marges. C'est le titre de l'ouvrage de David Graeber, publié aux éditions Le Bord de l'eau. Voilà, donc Jean-Mathias, tu voulais poursuivre sur quel point ?
Ouais, sur deux points. Bah, c'est un peu frustrant de parler de ce livre-là en une heure, parce qu'il est une telle densité, et puis il y a tellement de thèmes abordés qu'on aurait envie d'y passer du temps.
En fait, il est très bref.
C'est-à-dire qu'il est dense. Hein.
Mais ça, il est très dense. Bien, il mériterait sans doute de faire 500 pages.
Ouais, ouais, tout à fait. Mais du coup, effectivement, le présenter... Je voudrais vraiment essayer de donner envie en essayant de balayer comme ça un peu les différents thèmes qui sont abordés dans ce livre-là. Donc oui, pour terminer, peut-être encore les deux points qui me paraissent encore deux points forts là, vraiment, de ce livre-là. D'une part, l'analyse qu'il fait, du coup, c'est une analyse finalement historique là, hein, de l'émergence de cette espèce, ce qu'il appelle l'idéal démocratique, mais entre guillemets, du coup, c'est-à-dire de cette espèce d'idée que l'Occident serait porteur d'un certain nombre de valeurs et de projets politiques qui aura une vocation à s'étendre ailleurs dans le monde, donc égalité, liberté, respect de la loi, représentation, vote, etc. Et la manière dont ce discours-là, qui est finalement un discours abstrait, hein, d'après lui, puisque concrètement, c'est pas ça qui s'est passé dans l'histoire de l'Europe, hein, rappelle Graeber, mais la manière dont ce discours se construit, justement, en se référant souvent à la démocratie directe athénienne, hein, et d'après lui, en fait, ce moment-là est un moment de ce qu'il appelle de refondation démocratique, qu'on retrouve, qui n'est pas du tout propre à l'Europe, d'après lui, et qu'on retrouve finalement dans la plupart des sociétés humaines, à des moments historiques divers, et qui correspond à chaque, qui joue à chaque fois une fonction historique précise. C'est-à-dire qu'en fait, les élites, dans certaines périodes de l'histoire, s'emparent en quelque sorte, dans le passé et dans leur histoire, de moments démocratiques et vont en quelque sorte monter ça de manière un peu, créer une espèce de discours autour de ça, parce qu'ils ont à ce moment-là besoin, ou parce qu'ils sont contraints, parce qu'il y a un projet politique derrière, ils ont besoin d'intégrer en quelque sorte une dimension démocratique aux États. Hein, aux États ou aux formes de gouvernement en place. Et donc ça montre ce qu'il appelle de refondation démocratique. Il y a effectivement un moment très fort de ce type en Europe occidentale. Il identifie ce moment-là entre 1820 et 1830, ce qui correspond d'après lui de manière assez... Alors bon, c'est un marqueur qui peut avoir un peu une part d'arbitraire, mais il dit que l'important pour lui, c'est que c'est le moment où la Grèce, précisément, est en guerre contre l'Empire ottoman. Et il dit qu'on observe à ce moment-là justement une espèce d'émergence. Alors 1820-1830, c'est pas hasard.
Le mouvement pour s'emparer du terme démocratie a lieu aux États-Unis d'après lui un peu avant. Et justement que va se former l'opposition entre républicains et démocrates.
Tout à fait.
Qui, de ce point de vue-là, est très intéressante. Et justement en partie autour d'un jeu électoraliste. C'est-à-dire faut aussi se concilier une partie grandissante des votants. Et justement, on s'en rappelle au totem démocratique.
Tout à fait.
Et à partir de là, ce totem va devenir d'un usage quasi total dans la population politique.
Mais le discours, alors il faudrait voir, parce que là évidemment c'est de l'histoire un peu à la serpe,
bouche,
hein,
ouais.
là on y va fort. Mais ce qui l'intéresse, c'est de voir, d'après lui, la manière dont comment ça a émergé. 1820-1830, c'est quand même pas un hasard. C'est-à-dire, 1830, c'est...
C'est jamais un hasard, mais...
C'est pas un hasard, mais 1830, voilà, c'est le printemps des révolutions en Europe, 1848 rebelote, donc on est, et comme par hasard, avec 1821 à 1829, la Grèce est en guerre contre l'Empire ottoman, et comme par hasard, à ce moment-là, effectivement, refleurissent des espèces de recherches un peu hagiographiques et de discours élogieux à propos de la démocratie athénienne, dont il dit que elles sont nettement moins développées auparavant. C'est-à-dire que l'historien le plus lu et le plus discuté auparavant, c'est Thucydide. Thucydide qui est radicalement hostile à la démocratie athénienne, rappelle-t-il. À partir des années 1820-1830, on va citer un autre historien qui est Hérodote et qui lui-même a pensé la démocratie athénienne contre l'Empire perse. contre l'Empire perse, en opposant précisément ce qu'il y avait de démocratique, d'émancipateur dans le projet grec, contre les tyrannies orientales, perses, etc. Et comme par hasard, au moment où la Grèce est en guerre contre l'Empire ottoman, va ressurgir cette référence historique-là, avec cette vision extrêmement positive de la démocratie athénienne, et ensuite qui va être réinvestie. Alors, évidemment, là, on est bien clair, hein, il s'agit des discours et des théories, hein, politiques, on n'est pas dans l'histoire des mouvements sociaux ici. Hein. Il n'est pas en train d'expliquer que c'est parce qu'on ressort Hérodote qu'il y a 1830 et 1848, c'est pas du tout ça qu'il dit. Mais il dit que du point de vue des discours et la manière dont les élites européennes vont s'approprier l'idéal démocratique, jusqu'à construire un discours ensuite qui fera de l'Europe le berceau de cet idéal-là, il y a effectivement derrière la manière de constituer une espèce de noyau européen, et comme par hasard, ça se passe au moment où les Grecs sont en guerre contre l'Empire ottoman. Hein. On ressort ça, et alors ensuite, évidemment, ce qu'il explique, ce qui est particulièrement savoureux, c'est que les élites européennes commencent à s'approprier cet idéal démocratique, 1830-1848, alors avec des hauts et des bas, là, faudrait regarder de près aussi, hein, parce que en France, en Angleterre, ailleurs, la démocratie, elle est quand même un enjeu de lutte idéologique et pratique extrêmement fort. Hein. Mais il dit que globalement, l'idéal démocratique devient répandu, si ce n'est dominant parmi les élites européennes, alors qu'au même moment, ces élites-là se lancent à la conquête, évidemment, du monde entier. Ils vont soutenir les pires crapules et les régimes et les gouvernements les plus réactionnaires partout dans la planète.
Ils vont fonder des empires coloniaux.
Bien évidemment. Mais
absolument pas démocratique.
Oui, empire colonial, mais alors attention, parce que justement, c'est évidemment, alors là, c'est en ce sens-là qu'il est intéressant, parce qu'il me semble ouvrir une voie, y compris aux études postcoloniales, qui est intéressante. Alors, ouvrir une voie ou développer une voie qui existe déjà, hein, là, je vais pas en faire non plus une espèce de prophète, mais évidemment que les empires coloniaux se sont construits avec une mission et un discours civilisateur qui s'appuie notamment sur l'idéal démocratique. Alors évidemment, en pratique, on soutient les pires réacs et les pires gouvernements qu'il y a, mais il y a quand même derrière le discours qui a toujours à vocation interne, hein, mais, et puis c'est quand même qu'on va éduquer et développer les Lumières et la démocratie et les droits de l'homme ailleurs. Même si c'est pas pour tout de suite, évidemment, pour demain, etc.
Mais du point de
vue, bien entendu, mais du point de vue de l'idéologie coloniale, l'idéal démocratique, il a effectivement joué ce rôle-là. Et dit, c'est particulièrement savoureux, c'est-à-dire qu'effectivement, au moment où on se l'approprie, on va en pratique faire exactement le contraire de ce qu'on fait. Donc là, il y a quelque chose, alors il faudrait regarder, parce que historiquement, c'est peut-être là quelque chose qui serait discutable, il faudrait voir ça avec des historiens un peu plus précis là-dessus. Mais c'est quelque chose qui est intéressant. Et évidemment, l'apogée de ça, après, on retrouve ça à la fin du 19e, c'est devenu une espèce de lieu commun, hein, de tous les théoriciens, que ce soit en sociologie, on trouve ça chez Weber, on trouve ça chez les républicains français, la Troisième République bien évidemment, mais on trouve ça partout en fait, hein, cette idée qu'effectivement il y a une spécificité occidentale qui est porteuse finalement, l'Occident est porteur d'une espèce de mission et de vocation, étendre la démocratie et les lumières et les droits de l'homme, etc.
Et la liberté,
etc. Ouais. Voilà. Et donc ça donne effectivement le colonialisme, ouais. Mais cet idéal là, voilà, il s'est reconstruit avec une espèce de relecture rétrospective de l'expérience athénienne au moment où la Grèce est en guerre contre l'Empire ottoman, hein. Et du coup effectivement à partir de là on construit une espèce de bourré, c'est pas le récit national ou la mythologie nationale, mais c'est une espèce de mythologie continentale, on va dire, hein, qui va permettre ensuite de donner bonne conscience aux Européens, si jamais ils en ont besoin, pour aller envahir le reste du globe et créer un empire colonial. Donc ça, c'est un aspect qui est intéressant aussi chez lui. Et alors pour terminer, peut-être parce que ça c'est ce qu'il y a de plus gréberien chez Gréber, me semble-t-il. C'est le plaisir qu'il prend à justement s'intéresser aux pratiques démocratiques et surtout pas, dit-il en tout cas, puisqu'on voit bien qu'il s'y intéresse aussi, mais surtout pas aux discours ou aux théories sur la démocratie. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est d'essayer de voir dans quel type de société, dans quel type de collectif humain se développent et apparaissent ces pratiques démocratiques. Et ça, ce qui lui plaît dans cette affaire-là, c'est que c'est partout où l'État est inexistant, pas encore en place, faible, lointain, contesté. Partout où effectivement on a un État faible, un État ou une autorité centrale, disons-le comme ça, hein, coercitive, faible, vont pouvoir se mettre en place effectivement des pratiques démocratiques. Et alors, il y a plusieurs exemples qui sont savoureux dans cette affaire-là. Il fait notamment référence à un débat, alors qui pour moi m'était complètement étranger, c'est ce qu'on a appelé le débat sur l'influence, qui date de la fin des années 80 aux États-Unis. Un certain nombre d'historiens américains ont émis l'hypothèse qu'au moment où a lieu la Révolution américaine, il existe en réalité une influence absolument occultée sur les revendications démocratiques des colons américains et que cette influence, c'est ce qu'ils ont pu observer chez les Iroquois et notamment chez les pratiques de décision entre les différentes tribus iroquoises qui sont particulièrement démocratiques. Alors cette influence-là, les colons la découvrent et d'une certaine manière, ils vont s'en emparer, la récupérer sans le dire. Hein, pour porter leurs propres revendications démocratiques qui vont ensuite elles-mêmes être digérées, canalisées et en partie neutralisées par les constituants américains. Mais on a ici un jeu assez subtil d'influence en quelque sorte qui passe pas par les mots, pas par la théorie ou pas par le débat d'idées, mais par une espèce d'observation ou de pratique directe, pourrait-on dire, hein, de pratiques humaines qui sont là pour le coup une espèce d'égalité quasiment physique, pourrait-on dire. Hein. On observe effectivement ces hommes en face de nous. Alors évidemment, ils sont pas bien comme nous. On s'identifie pas complètement, mais on voit bien qu'ils font ça. On voit bien que finalement ça marche, on voit bien que ça pourrait correspondre à ce qu'on souhaite sur ce moment-là, on voit bien que ça pourrait nous être utile aussi, il ne faut pas être complètement naïf, c'est-à-dire que ça pourrait aider à virer effectivement le colon anglais, et donc on va en quelque sorte dire ça dans nos mots à nous, c'est-à-dire d'une certaine manière, il y a derrière l'idée que, loin d'être une espèce de création occidentale un peu bizarroïde ou identitaire, la démocratie, si on prend le cas américain, c'est quelque chose qui est par essence de l'ordre du métissage culturel. Et c'est évidemment quelque chose qui va ensuite développer en essayant de montrer finalement que oui, il y a effectivement dans l'histoire de la démocratie américaine, il y a les communautés puritaines, ça c'est assez connu effectivement, avec cette espèce d'égalité dans le cadre des conseils, des municipalités puritaines des premiers colons, il y a ça, mais il y a aussi effectivement l'influence des Iroquois sur ces colons et sur les colons en général. Et puis il y a aussi, notamment c'est quelque chose qui...
Dans la thèse de l'influence avait été très très contestée, hein, Graeber.
Ah bah bien sûr, il a été très contesté, mais il dit que ça vaut le coup de se poser la question, autrement dit. Dans la mesure où on est sur une zone frontière, alors là, Dieu sait l'importance de cette thématique-là dans l'histoire de la culture américaine, mais donc on est sur cette espèce de zone frontière, et il dit finalement, à chaque fois qu'on est sur des zones de ce type-là, oui, on va observer l'émergence de pratiques qu'on peut qualifier de démocratiques, on trouve ça aussi chez les pirates. On trouve ça aussi chez les pirates.
Ça, vous pouvez le voir dans les bouquins de Rediker.
Tout à fait.
Ils sont vachement bien et super intéressants aussi sur comment émergent des cultures démocratiques, justement, dans ces zones de non-droit, finalement, de non-droit étatique.
Tout à fait. Et donc, on trouve ça là-dessus. C'est ce qu'il appelle les zones d'improvisation culturelle et c'est là qu'il faut chercher l'origine anthropologique des pratiques culturelles. Sûrement pas dans un discours complètement mythifié, le berceau athénien ou occidental. Donc il faut aller regarder ça. Donc on a affaire toujours, s'il faut parler de tradition démocratique, c'est toujours de toute façon des jeunesses qui sont hybrides, métisses. Hein. Et alors ils s'amusent aussi un petit peu avec ça, et en même temps très sérieusement, en émettant un certain nombre d'hypothèses, notamment sur, alors c'est à la fin du livre, ça c'est tout à fait fascinant, ils montrent comment finalement, au moment où en Europe la philosophie, les théories comme Hobbes sont en train de réfléchir aux théories du contrat social qui vont permettre les individus se mettre d'accord pour faire émerger l'autorité d'un État et tout ça. Il dit, bah oui, mais alors ça, on l'observe en pratique sans mots, sans grande théorie ou sans grande réflexion philosophique. On l'observe sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, là où on a des aventuriers africains, mais aussi portugais, espagnols. On a une espèce de zone de non-droit pas très claire là-dessus. Et pour que les échanges fonctionnent, ce qui se met en place, c'est des systèmes de fétiches. Les fétiches, c'est quoi? Ils incarnent l'accord contractuel entre les parties pour que l'échange commercial puisse avoir lieu. Il dit, ben voilà, là, on a effectivement une espèce de contrat social en pratique qui vient de cette espèce de prolétariat, de premier prolétariat atlantique là, qui se met en place sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest au moment où il y a le début de l'expansion coloniale. Voilà une des origines peut-être de cette idée de théorie de contrat social en pratique. Hein, allons chercher de ce côté-là plutôt qu'aller regarder chez Hobbes. Voilà, on a ça. Autre chose, la constitution de l'État-nation avec une administration centrale, une espèce de fonction publique relativement indépendante, etc. Allez regarder comment ça se passe en Chine. Leibniz lui-même est un des premiers à dire que finalement c'est pas les Européens qui devraient envoyer des missionnaires en Chine, c'est l'inverse. C'est que les Chinois devraient envoyer des missionnaires pour nous expliquer comment ils font. Hein. Et que finalement, donc ça l'amène à faire ces espèces de d'aller-retour comme ça entre les cultures avec cette formule que je te disais tout à l'heure, que je trouve géniale, alors qui est évidemment provocatrice, où il résume.
Sur laquelle on va sans doute conclure.
Où on va conclure. Et alors évidemment, où il explique l'État-nation moderne finalement serait-il en vérité un modèle chinois d'administration Constitution, adoptée afin de canaliser et de contrôler les aspirations démocratiques provenant en grande partie de l'influence des sociétés amérindiennes et de la pression exercée par le prolétariat atlantique, qui fut au bout du compte légitimée par une théorie du contrat social venue d'Afrique. Non, probablement pas, dit-il évidemment, probablement pas, mais je ne pense pas non plus que ce soit en vertu d'une simple coïncidence que l'idéal d'une démocratisation de l'État ait pris naissance à une époque où les puissances atlantiques se trouvaient au centre de vastes empires internationaux et d'un brassage permanent de savoir et d'influence réciproque. Et pas par hasard non plus que ces puissances aient développé une théorie selon laquelle ces idéaux n'émaneraient que de leur propre tradition occidentale, alors qu'avant de se retrouver au cœur d'empires internationaux, les Européens n'avaient jamais rien soutenu de ce genre. Voilà. Alors, c'est à ce type de conclusion donc, qu'il arrive. Donc, assez savoureux, comme vous pouvez le voir. Alors, après, bon, pour terminer vraiment, son idée, c'est évidemment d'élargir en fait cette espèce d'analyse-là de manière un peu plus politique et pratique, hein, en appelant finalement à des formes d'organisation qui seraient voilà, anti-étatiques, pourrait-on dire, hein, puisque c'est comme ça qu'effectivement la démocratie peut exister. Son idée, c'est que la démocratie n'est pas soluble dans l'État. Hein, dans l'État républicain. Alors c'est peut-être la thèse sur laquelle évidemment il faudrait discuter, parce que du coup ça renvoie aussi et ça cantonne aussi d'une certaine manière, si on est un peu critique, ça cantonne les pratiques démocratiques à des formes de contre-pouvoir. Hein, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir démocratique chez Graeber. Et donc la référence sur laquelle lui il s'appuie, c'est les apatistes. Hein, c'est les apatistes, et il est dans le logiciel altermondialiste depuis les apatistes. Mais vous voyez donc que ce logiciel-là, il illustre, il le défend de manière particulièrement brillante. Là, donc, on vous recommande vraiment La démocratie aux marges, David Graeber, aux éditions du Bord de l'eau. Hein, ça vient de sortir, donc allez-y, c'est passionnant.
Bien. Voilà, et vous pourrez retrouver l'émission très vite sur le site Gurdulu, vous tapez Jeudi Noir Gurdulu et tout y est. Voilà, donc grâce à José. Donc au revoir, et puis on se retrouve la prochaine fois.
Mais où vous étiez? Je vous cherche depuis une heure.
Désolé, mais j'étais encore au self. Ils ont un très bon gratin dauphinois aujourd'hui.
Vous m'avez fait perdre une belle occasion de gagner un marché, et vous m'avez coûté de l'argent.
Allô?
Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte.
Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, n'oubliez pas.
C'est tout ce que vous trouvez à dire.
Ouais. Allez vous faire foutre.
À bas la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les toits, la hiérarchie, pour tous ceux qui ont les mains moites. À bas la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les toits, la hiérarchie, pour tous ceux qui ont les mains moites. C'est ça, boss, 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 beaucoup. Écrase-toi et mets ton orgueil au porte-manteau. Tout le monde y pense, tout le monde oublie. Personne se barre. Tout le monde subit. Alors tu bosses 15 tombes sur un Macintosh. C'est moche, y'a le boss qui vénère comme un boche. Il crache dessus, tu stresses et l'angoisse. Mais tu continues, parce qu'il faut de la caillasse. C'est le fils qui brime, et ça te fout la déprime. Tu veux en parler, mais jamais tu t'exprimes. C'est reprendre pour un con par des gens qu'on déteste. Payé au lance-pièce, t'as plus qu'à bouffer les restes. Harcèlement moral, ambiance carcérale. Espèce de connard qui s'habille super. Ken par ce putain de système.
Abat la hiérarchie,
pour tous les mecs qui sont dans les toits.
La hiérarchie,
pour tous ceux qui ont les mains moites.
Abat la hiérarchie,
pour tous les mecs qui sont dans les toits.
La hiérarchie,
pour tous ceux qui ont les mains moites.
Abat la hiérarchie,
pour tous les mecs qui sont dans les toits.
La hiérarchie,
pour tous ceux qui ont les mains moites.
Abat la hiérarchie,
pour tous les mecs qui sont dans les toits.
La hiérarchie,
pour tous ceux qui ont les mains moites. Mais qui tais-toi pour me parler comme ça? T'es placé par le papa et tu te crois plus fort que moi. Mais qui tais-toi pour me stresser comme ça? Qui te donne le droit de te croire au-dessus de moi? Ma supérieure, parce que t'es mon supérieur. Espèce de bâtard, je vais péter le postérieur. Et quand tu feras le bouffon dans ta caisse de fonction, fais gaffe, j'aurais peut-être scié la direction.
Tu sais, de toute façon, la société fonctionne comme ça, hein. Excuse-moi, mais c'est genre t'enfoncer partout.